9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Et si l'on parlait un peu du pronom YEL, la contraction de il et elle, son entrée dans le dictionnaire a créé la polémique cette semaine. Le linguiste Patrick Charaudeau, l'auteur de La langue n'est pas sexiste, est mon premier invité ce matin. Aurélie Jean lui succédera, elle est docteure en sciences numériques et elle publie Les algorithmes font-ils la loi? Et oui, les algorithmes rythment déjà nos vies, mais peu d'entre nous comprennent comment ils fonctionnent. Aurélie Jean va nous l'expliquer. Et on terminera l'émission avec Joël Mevinier, le président de la Confédération nationale des charcutiers traiteurs. Ce soir à 18h30 a lieu la 212e messe du souvenir des charcutiers à l'église Saint-Eustache à Paris. On y prie, on y chante et on y mange de la charcuterie.
Europe 1.
Bonjour Patrick Charaudeau.
Bonjour.
Vous êtes linguiste, professeur émérite de l'Université Paris 13. Vous êtes l'auteur aux éditions du Bordelot de « La langue n'est pas sexiste ». Une polémique vient d'éclater autour du pronom « YEL » qui divise les dictionnaires. Le Robert l'a inclus dans sa version en ligne, ce qui lui est vertement reproché, alors que le Larousse s'y refuse. Ce pronom personnel est employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. « YEL » étant une contraction de « il » et « elle ». Est-ce que c'est ce que vous appeliez dans un article de la revue Le Débat, la neutralisation?
Oui, effectivement, c'est une forme de neutralisation. Mais alors, d'abord, je suis quand même très très étonné là de ce choix qui a été fait par le dictionnaire Le Robert. Je ne suis pas sûr même que le regretté Alain Rey, avec qui j'avais souvent des discussions, aurait lui été d'accord.
Alain Rey, je le rappelle, hein, célèbre linguiste et lexicographe, il était le rédacteur en chef du dictionnaire Robert jusqu'à sa mort.
Et donc, il défendait l'idée tout à fait légitime hein, qu'un dictionnaire doit enregistrer ce qui circule dans l'espace public, la façon dont parlent les gens, on est bien d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est celui du critère, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit effectivement entrer dans un dictionnaire du fait que c'est quand même d'un usage assez courant. Hein, c'est le cas de la plupart des mots. Alors, que par exemple soit intégré le pass sanitaire, c'est tout à fait légitime parce que le pass sanitaire est devenu un mot qui est vraiment partagé par l'ensemble de la population. Mais YEL, c'est très étrange parce que d'abord, ça n'est employé que dans une toute petite communauté d'universitaires et encore pas tous les universitaires parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Et puis ensuite, parce qu'il y a d'autres formes que YEL hein, pour neutraliser. Il y a UL aussi qui devrait reprendre il et elle hein, parmi les propositions qui ont été faites par l'écriture inclusive. Hein. Le YEL qui s'écrit d'ailleurs avec un Y aussi, qui peut être au singulier, au pluriel. Il y a ceuse et ce-le qui aussi devrait reprendre ce et celle, etc. Donc, je suis très très étonné que ce soit ce mot-là particulier, qui n'est pas un mot du lexique, hein, qui est un mot de la grammaire, qui a été intégré. Là, c'est vraiment très étrange. On peut quand même se demander si le dictionnaire n'a pas voulu faire un coup. Quoi.
Cela dit, faire entrer un mot dans le dictionnaire ne vaut pas adhésion. Hein. Il s'agit de l'expliquer, pas forcément de l'encourager. Si le pronom « YEL » est utilisé, même ici ou là, le dictionnaire ne doit-il pas forcément le définir? Et s'il ne le faisait pas, ne pourrait-on pas l'accuser de censure?
Ben oui, bon, ça c'est toujours la même chose. C'est comme la liberté d'expression. Non mais attendez, oui, vous avez tout à fait raison, hein, parce qu'un dictionnaire n'édicte pas des règles. Hein, contrairement à ce que l'on dit souvent dans les jeux télévisés ou autres, que le dictionnaire a autorité. Non, le dictionnaire n'a pas autorité. Le dictionnaire, c'est comme un greffier hein, qui enregistre des usages, qui donne les définitions, effectivement, les définitions en fonction des usages, qui ne peut pas préjuger d'ailleurs des sens qui peuvent s'ajouter hein, au sens de base qui est donné par le dictionnaire.
Oui, parce que langue est toujours en construction, hein, en fait.
C'est ça, oui, une langue est toujours en construction, mais le dictionnaire, en l'occurrence, bon, il peut par exemple montrer qu'un même mot qui existe déjà hein, a pris un sens nouveau. Oui, bon, ça, tout à fait légitime. Hein. Là, il s'agit d'une forme qui est nouvelle. Et c'est quand même les grammaires qui sont chargées de ça. Les grammaires édictent des règles, hein, c'est-à-dire qu'elles décrivent le fonctionnement de la langue comme condition d'entendement, hein, parce que sinon on ne pourrait pas se comprendre. Qu'un article, ça se met devant un substantif dans la langue française, enfin dans les langues latines, et pas derrière, par exemple. Bon. Et que donc, il y a des pronoms hein, pour rappeler ce qui a déjà été dit avant. Bon. Donc, il y a une grande différence entre dictionnaire et grammaire. Et je dirais que tant qu'une grammaire n'aura pas intégré ces nouvelles formes qui sont proposées par l'écriture inclusive, eh bien, elles ne feront pas autorité.
Ce pronom « yel », qui est inspiré de l'anglais, en anglais, on dirait « they ». Hein, THEY.
Oui,
ce pronom YEL en français, on ne sait pas comment on l'accorderait. YEL est beau ou YEL est belle. Ce qui peut marcher en anglais, parce que les adjectifs ne s'accordent pas, il n'y a pas de féminin et pas de masculin, ne fonctionne pas dans la langue française de la même manière.
Oui, mais si l'on va jusqu'au bout des exigences de l'écriture inclusive, hein, pour laquelle, enfin, je suis d'accord sur une part hein, des propositions qui ont été faites, mais on vient là-dessus. Mais si on va au bout à ce moment-là, l'écriture inclusive va proposer des formes d'adjectifs hein, ou de substantifs, hein, après, qui elles-mêmes hein, seront des nouvelles formes qui sont susceptibles de reprendre à la fois, enfin de conjuguer à la fois les deux genres. Hein. Bon. Donc, bon, pour eux, il n'y aurait pas de problème. Il hein. Y aurait « yel sont blanc point che, point e, point etc. pour dire son blanc et blanche à la fois. Voyez bon. Mais il y a quelque chose d'assez curieux et je dirais presque drôle hein, concernant le YEL. C'est que le souci de l'écriture inclusive, hein, effectivement, c'est de pouvoir assurer dans tous les cas l'alternance, la conjonction du masculin et du féminin. Mais en même temps de maintenir une binarité. Or, il y a un autre mouvement, le mouvement des transgenres, qui sont contre la binarité et qui disent qu'effectivement, il faut des formes de neutralisation, mais de neutralisation totale, quoi. Alors, dans ce cas-là, voilà, on a un cas d'amalgame, parce que « yel » amalgame « i » de « il » et « e » de « elle ». Bon, on a un cas d'amalgame, donc c'est quelque chose qui est susceptible de plaire, disons, au transgenre, parce qu'effectivement, ça neutralise, ça fait la conjonction, mais ça ne joue pas un rôle d'alternance.
En effet. Donc, alors, ceux qui utilisent YEL hein, sont les promoteurs d'une langue non sexiste, plus inclusive. Or, d'après vous, la langue n'est pas sexiste. On fait une pause, Patrick Charaudeau, et on y revient.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec le linguiste Patrick Charaudeau, l'auteur de « La langue n'est pas sexiste ». Qu'est-ce que vous entendez-vous par « La langue n'est pas sexiste » ?
Chaque fois que nous parlons, nous faisons des choix. Voilà. Et donc, nous sommes les seuls responsables de ces choix. Donc, ce n'est pas la langue en tant que telle qui est sexiste. Ce sont les individus qui peuvent être sexistes selon la façon dont ils emploient la langue. Voilà, c'est ça que je veux dire par « la langue n'est pas sexiste ». La langue en tant que système n'est pas sexiste. Hein. Même si on ramène l'idée que dans le passé, on a dit qu'il fallait que le masculin était plus noble et que dans les accords au pluriel, il fallait accorder plutôt au masculin qu'au féminin.
Oui, c'est la fameuse règle selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin.
Voilà, c'est vraiment
cette règle est souvent qualifiée de sexiste.
Oui, c'est vraiment une expression malheureuse. Non, vraiment, c'est une expression malheureuse. Alors que maintenant, on peut la remplacer par dire que tout simplement, il y a des phénomènes de neutralisation dans la langue. Par exemple, le pluriel. La caractéristique du pluriel, c'est justement qu'il efface les unités, qu'il efface les individualités hein, pour en faire un groupe global.
Mais voilà. Vous savez bien ce que les féministes reprochent à cette règle, Patrick Charaudeau, ce qu'ils disent, s'il y a 200 femmes et un homme qui vont à la plage, on va dire « ils ». Il suffit qu'il y ait un homme pour qu'on dise « il », alors qu'on ne dit pas « elles vont à la plage ».
Oui, ça, c'est effectivement un bon exemple, mais je vous en donne d'autres. Si l'on dit « les universitaires ont deux fonctions, ils sont enseignants et ils sont chercheurs ». Est-ce que quand on dit les universitaires ont deux fonctions, on exclut les femmes? Et donc, est-ce que quand on reprend par « ils sont enseignants et ils sont chercheurs », on exclut les femmes? C'est ça la neutralisation. Hein. C'est que, justement, le pluriel a cette caractéristique de neutraliser l'opposition des genres. Voilà. Alors, si on ne veut pas accepter ça, bon, moi je veux bien, hein, j'ai rien contre. Moi j'essaye simplement d'expliquer comment fonctionne la langue. Hein. Là, je n'ai pas une position militante par rapport à ça. Ce phénomène de neutralisation, qui est un phénomène qui n'existe pas que dans la langue. Hein. La neutralisation, c'est un phénomène assez général dans les fonctionnements sociaux et particulièrement pour la langue. S'il n'y avait pas de phénomène de neutralisation en langue, on aurait beaucoup de mal pour parler. Hein. Ou alors il faudrait faire comme dans certains règlements intérieurs que j'ai connu dans une université, qui est que l'on double tous les mots en les répétant au masculin et au féminin, ce qui fait que le règlement intérieur double de volume. Bon, bah, c'est une solution si on veut.
Au fond, ce que vous dites, Patrick Charaudeau, dans votre livre, ce n'est pas la langue qui est sexiste, mais la façon dont on l'utilise. Et donc, on n'en est pas prisonnier pour autant. On peut parler d'égalité entre les femmes et les hommes sans passer par l'écriture inclusive.
Ah ben, moi, j'en suis persuadé. Je propose dans mon livre, on ne peut pas le détailler, hein, toute une série à la fin, hein, de possibilités. Alors, soyons clairs, hein, parce que je ne voudrais pas être accusé de sexisme. Soyons clairs. D'abord, j'ai toujours pour la féminisation des noms de métiers. Ça, maintenant, c'est une chose acquise et c'est une bonne chose. Hein. C'est tout à fait normal. Les métiers changent, les distributions des rôles sociaux changent. Donc, il est normal qu'on en rende compte. Hein. Bon. Ensuite, pour ce qui concerne l'invisibilité du genre féminin. Bon, d'abord, on pourrait avoir toute une discussion pour savoir si le genre, c'est le sexe. Hein. Bon, mais enfin, on ne va pas rentrer dans ce détail. Mais pour lutter contre l'invisibilité qui parfois, effectivement, hein, apparaît. Par exemple, moi, je suis pour que dans les annonces d'emploi, on utilise non pas le point médian, mais des parenthèses pour dire, par exemple, que telle entreprise cherche un directeur ou une directrice ou bien un directeur avec des parenthèses. Comme on le fait, vous savez, quand on écrit un courrier, qu'on dit « chers amis », hein, et qu'on met une parenthèse, pour que ce soit à la fois le féminin et le masculin. Bon, donc il y a, dès l'instant que l'on veut bien tenir compte du contexte, hein, parce que cette revendication d'inclusivité, on la présente toujours de façon abstraite, c'est-à-dire sans tenir compte des contextes. Eh bien, si l'on tient compte des contextes, il y a toujours une possibilité de rendre visible le genre masculin et le genre féminin. Toujours une possibilité, soit par répétition, soit par emploi de parenthèse, soit par des gloses, toujours possibilité, mais en tenant compte du fait qu'il y a des contextes qui exigent la neutralisation, c'est tout. C'est ça ce que l'on peut dire quand on analyse le langage, hein.
Merci Patrick Charaudeau. Votre livre s'intitule « La langue n'est pas sexiste ». Ça vient de paraître au bord de l'eau. On se retrouve dans un instant avec Aurélie Jean. On va parler des algorithmes qui rythment notre vie.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Aurélie Jean, bonjour.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes docteur en sciences numériques, vous êtes l'auteur de l'autre côté de la machine, qui avait été un beau succès de librairie en 2019. Aujourd'hui, vous publiez « Les algorithmes font-ils la loi ?» aux éditions de l'Observatoire. Car les algorithmes, c'est vrai, ont pénétré le système judiciaire. Ils ne font pas encore la loi, mais ils l'influencent et orientent sa mise en pratique. Certains y voient une menace. On se souvient de Minority Report, le film de Steven Spielberg avec Tom Cruise, d'après une nouvelle de Philippe Caldic. Le film se passe en 2050 et la police arrête les gens avant même qu'ils aient commis leur crime. On n'en est pas là, mais les algorithmes jouent déjà un rôle important dans nos existences. Ils prévoient la météo, les tremblements de terre, les embouteillages, les cours de la bourse, le montant de nos primes d'assurance et quantité d'autres choses. Vous imaginez qu'un jour, ils puissent prévoir les crimes ?
Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça, je dirais. Non, parce que arriver à le faire dans la majorité des cas sans aucune discrimination et stigmatisation des gens ou des quartiers, je pense que ce sera difficile. Ouais.
C'est quoi un algorithme exactement ? Je me demande si la plupart des gens qui en parlent et même ceux qui légifèrent dessus savent de quoi il s'agit.
C'est une très bonne question. Un algorithme, c'est historiquement, littéralement, une séquence d'opérations à exécuter selon une certaine logique pour pouvoir répondre à une question et résoudre un problème. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithmes, ce sont des algorithmes qui sont implémentés dans un code de calcul pour tourner sur un ordinateur. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire que, alors qu'historiquement, il y a plus de 2000 ans, en fait, les algorithmes étaient faits pour être résolus à la main, aujourd'hui, ils sont résolus automatiquement sur un ordinateur, ce qui a fait naître plein de nouvelles classes d'algorithmes.
Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on collecte tellement de données que sans algorithmes, on ne pourrait pas les utiliser.
Alors oui, vous avez entièrement raison, c'est-à-dire qu'on a eu deux évolutions technologiques en parallèle. D'une part, cette capacité de collecter et de stocker un nombre considérable de données, entre autres grâce à Internet, les objets connectés et puis des systèmes de stockage performants. Et puis, on a fait évoluer des nouvelles classes d'algorithmes, on a amélioré aussi les capacités de calcul des ordinateurs pour pouvoir aller encore plus loin dans l'analyse de ces données pour, comme vous l'avez très bien dit, faire des modèles de prédiction, comprendre des phénomènes, etc.
Oui, parce que ça peut être utile, hein, les algorithmes.
Ah mais oui, il ne faut surtout pas les stigmatiser.
Ils peuvent servir à comprendre et à améliorer même.
Exactement, et moi je le démontre dans mon premier livre, dans le deuxième livre, dans plein de domaines, dans le domaine financier, dans le domaine médical, le domaine de l'éducation. Vous avez parlé de la météo, donc pour comprendre certains phénomènes du réchauffement climatique, les algorithmes ne sont pas manichéens, comme je le dis souvent, ils sont ni mauvais ni bons, ils sont ce qu'on en fait.
Mais très souvent, les gens en ont peur parce qu'ils sont opaques. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'algorithme de Google ou de religion, si elle,
oui, bien
si
sûr.
Elle en fait
ah
demain.
Oui, bien sûr, j'en fais. Voilà. Alors, il y a deux choses dans l'opacité. Il y a d'une part l'opacité qui est propre à la propriété intellectuelle, hein, c'est-à-dire qu'on va conserver ce secret au sein de nos entreprises.
Comme la recette du coca.
Exactement, vous avez tout compris. Et puis, il y a cette opacité qui est intrinsèque à une certaine classe d'algorithmes qui sont les algorithmes d'apprentissage machine, qui développent une logique à partir d'un entraînement sur un jeu de données qui représente les scénarios sur lesquels en fait, l'algorithme doit répondre à une question, résoudre un problème. Donc voilà, donc c'est encore autre chose.
Très souvent, on veut réguler les algorithmes, hein, comme on ne les comprend pas, comme ils sont opaques, on veut les réguler. Vous dites qu'il vaut mieux les dompter. Quelle nuance faites-vous ?
Alors,
vous les voyez comme des bêtes sauvages ?
Oui, je fais beaucoup la métaphore de la jungle dans mon livre. Donc c'est pire que ça. C'est-à-dire que je dis que réguler un algorithme, la formulation de la question qui est comment réguler un algorithme est idiote. Parce qu'en fait, un algorithme ne peut pas se réguler vu qu'il ne peut pas s'évaluer dans la majeure partie des cas. Ce qu'il faut, au contraire, c'est les dompter à travers la régulation de bonnes pratiques de développement de ces algorithmes, de tests, c'est important les tests, même une fois utilisés parfois par des dizaines de millions d'utilisateurs. Et puis, surtout, c'est le cœur du sujet de mon livre, c'est comment on peut imposer les acteurs à appliquer ce qu'on appelle des méthodes de calcul d'explicabilité qui, justement, permet de diminuer l'opacité sur la logique de cet algorithme en voulant extraire par le calcul statistique, une partie de la logique.
Est-ce que ça fait partie de l'intelligence artificielle, les algorithmes ?
Oui, alors moi c'est un mot que j'utilise très peu, vous remarquerez dans le livre, hein, et il y a beaucoup de scientifiques qui revendiquent, qui disent que ce mot est mal utilisé, parce qu'en fait, il fait peur. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce que dit Joshua Benjo, qui a eu le prix Turing il y a 2 ans, qui disait, il ne faut pas parler d'intelligence artificielle, mais de stupidité artificielle, parce qu'on ne rend pas l'ordinateur plus intelligent, mais moins stupide. Maintenant, si on revient à la définition du mot, oui, l'intelligence artificielle, c'est à la fois une discipline et des méthodes de calcul. Et dans un modèle d'intelligence artificielle, on a souvent un ou plusieurs algorithmes qui tournent, qui ont été entraînés ou calibrés sur un jeu de données et qui tournent sur un jeu de données dans le but de résoudre un problème ou de répondre à une question, comme par exemple, y a-t-il un chien sur cette photo, qui est l'exemple que je donne dans mon livre.
Alors, passons à l'influence que peuvent avoir les algorithmes sur le système judiciaire, qui est le cœur de votre livre. La police prédictive, par exemple. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est la police prédictive ? Vous parlez du logiciel PredPol qui estime tous les matins les lieux où les crimes vont être commis. Ce logiciel a été acheté, entre autres, par la police de Los Angeles.
Absolument.
Où vous vivez en partie. À quoi ça a servi, le logiciel PredPol ? Est-ce que tout à coup, on a pu aller arrêter les gens,
les criminels
avant même qu'ils...
Alors, c'est un très très bon exemple que j'évoque. Donc c'est mon livre parle beaucoup de la régulation, mais je ferai quand même un petit détour sur, comme vous l'avez dit, l'usage des algorithmes dans la loi et l'exercice de la loi comme la justice et la police dans mon chapitre 5. Et là, c'est un exemple concret, réel, qui a été initié donc, par un professeur de l'université de Los Angeles en faisant une analogie avec un modèle de prédiction des séismes, des répliques sismiques. Et l'idée est la suivante. Un crime n'arrive jamais seul à un endroit, comme un séisme n'arrive jamais seul. Il y a des répliques. Du coup, cette équipe qui a ensuite, comme vous l'avez très bien dit, vendu la licence à la police de Los Angeles, qui a entre-temps arrêté le programme le 20 avril 2020 exactement. L'idée est la suivante, c'est-à-dire que l'algorithme a été entraîné sur les crimes déclarés du passé dans la ville de Los Angeles pour pouvoir prédire, définir donc des pourcentages de risque d'un crime de se commettre dans un quartier tous les jours et aussi d'approcher des individus suspects. Le problème de ça, c'est que deux choses. D'une part, j'ai dit, l'algorithme a été entraîné sur les crimes déclarés Donc ce ne sont pas tous les crimes commis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les zones de patrouille qui ont été, les zones qui ont été abandonnées par les patrouilles policières, elles sont davantage abandonnées dans le futur, vous voyez. Et puis
on retourne là où on a déjà
exactement,
été, en fait.
Avec un biais de confirmation, parce que quand vous allez dans un endroit, il y a de fortes chances que vous trouviez quelque chose.
Oui, et puis il y a au moins un petit deal de shit.
Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi le phénomène d'autoralisation et le biais de confirmation. Et puis il y a eu un phénomène qui est à mes yeux beaucoup plus grave, qui est le phénomène de stigmatisation des gens et des quartiers. Considérant le fait que les crimes sont étroitement liés en fait au niveau, à la classe sociale des individus, et qu'il y a des quartiers aux États-Unis, en partie dans le Sud-Est, un quartier hispanique et afro-américain, où il y a beaucoup de crimes. Donc on a stigmatisé ces populations hispaniques et afro-américaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous étiez un individu blanc, noir, jeune, vous étiez beaucoup plus stigmatisé, pointé par l'algorithme, qu'une personne âgée, femme, blanche, dans un quartier différent de Los Angeles. Et c'est pour ça que le logiciel a été arrêté, avec d'ailleurs, somme toute, des efficacités somme toute relatives, parce que ça marchait pas très très bien. Donc voilà, donc c'est un exemple d'usage d'algorithmes dans la justice, dans la police, où il faut faire extrêmement attention, parce qu'on peut stigmatiser en transformant une représentativité statistique en une condition systématique.
On fait une pause de religion, on continue juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Les algorithmes font-ils la loi? C'est le titre du nouveau livre d'Aurélie Jean qui est avec moi en direct dans ce studio ce matin. Parlons un peu de la justice prédictive. Là, on se dit, tiens, bah oui, les algorithmes ont un rôle à jouer. Les juges, quand ils vont décider de la libération de quelqu'un, ils font au fond des probabilités dans leur tête. Est-ce que cette personne a des chances de récidiver ou pas?
Exactement. Donc les juges font ce travail. Et en effet, il y a des outils actuellement qui tournent aux États-Unis pour aller estimer les risques de récidive d'un accusé de façon à définir ou pas sa libération conditionnelle. Mais là encore, il y a attention, parce qu'en fait, les outils qui sont, il y en a plusieurs dont je parle dans le livre, les questions posées sont tellement simples et sont tellement peu nombreuses que j'ai du mal à croire que ça puisse justement fonctionner. Et il y a deux principes fondamentaux dans la justice que j'ai découvert moi avec ce travail. C'est le principe de transparence et le principe d'égalité face à la loi. Transparence, c'est-à-dire toute personne doit comprendre les mécanismes de la justice qui la concerne, de la décision qui la concerne. Et l'égalité, on doit tous être égaux face à la loi. Et c'est un des principes dont il faut faire très attention lorsqu'on utilise des outils algorithmiques que je ne rejette pas strictement pour la justice algorithmisée. Je parle d'algorithmisée, pas de prédictive. Souvent, mais attention à comment on les fait, parce que ça touche quand même des humains, des individus. On sait que la justice, c'est avant tout une histoire humaine.
Quels sont les avantages et les inconvénients pour vous, Aurélie Jean, après avoir veillé sur le sujet, sur quels sont les avantages et les inconvénients d'une justice algorithmisée?
Alors, les inconvénients, ce seraient deux choses. C'est de jossifier la loi, c'est-à-dire de la transformer factuellement, alors qu'en fait, l'exercice de la loi, la justice, alors qu'en fait, c'est une histoire humaine. Et le deuxième risque, c'est de ne plus profiter de ce qu'on appelle du revirement jurisprudentiel. Dans la loi, quand vous exercez la loi dans la justice, dans une affaire, vous avez une part de jurisprudence qui est plus forte aux États-Unis qu'en France, parce qu'en fait, on a un système de droit commun aux États-Unis. Donc, en fait, la jurisprudence crée la loi, alors qu'en France, elle est beaucoup moins forte. Ce sont les parlementaires, les législateurs qui créent la loi, contrairement aux États-Unis où sont le juge. Donc forcément, la jurisprudence existe. Si un algorithme décidait à la place d'un juge, allons jusqu'à l'extrême, plus de juges que des machines. Qu'est-ce qui va se passer? L'algorithme aura du mal, difficilement, à créer ce qu'on appelle un revirement jurisprudentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à prendre une décision sur une affaire judiciaire, une décision qui n'a jamais été vue dans le passé. Pourquoi? La société évolue, les cas évoluent, et le revirement jurisprudentiel est extrêmement important pour l'évolution de la loi, et ça, on ne l'aura pas. L'avantage maintenant, s'il y en a quand même, c'est de donner un éclairage aux acteurs de la loi qui sont les juges, les avocats, les policiers aussi, des éclairages sur une situation, des éclairages sur une affaire. Ça existe, il y a des choses qui existent en France pour aller définir par exemple les pourcentages de réussite d'une affaire. Mais encore une fois, attention à comment on utilise ces outils. Et puis il y a des choses qui fonctionnent bien en Europe, en France, si je peux donner l'exemple.
Oui, bien sûr.
Il y a un exemple DataJust, j'aime pas trop le nom, mais voilà. DataJust qui est un outil qui a été, c'est un programme que je trouve très intéressant. On s'est rendu compte qu'en France, pour un préjudice corporel, une victime avait des indemnités très différentes en fonction de où l'affaire était jugée en France. Strasbourg, Lille, Marseille, Paris. Ce qui, comme je vous l'avais dit, revenir à l'un des deux principes de la justice fondamentaux, c'est la transparence et l'égalité. Eh bien là, en fait, les gens ne sont pas égaux. Les victimes ne sont pas égales face à la justice, vu qu'il y a des indemnités très différentes pour le même préjudice corporel. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont... le programme DataJust, qui a été initié par l'État, est un programme dans lequel on a récolté pour pas mal de préjudices corporels, des indemnités équivalentes, donc qui correspondantes. Et ils ont pu créer une catégorisation grâce à un algorithme d'avoir pour le juge une suggestion d'indemnité pour un préjudice corporel donné. Mais ce n'est qu'une suggestion. Le juge après décide, peut même rejeter la suggestion algorithmique. Mais ça permettrait in fine de rééquilibrer les indemnités fournies aux victimes pour préjudice corporel et ne pas avoir cette inégalité face à la loi.
Si l'on n'y prend pas garde, ces algorithmes, dites-vous, peuvent altérer l'indépendance de la justice. Mm-mm. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'elle va altérer les deux principes qui sont la transparence et l'égalité, où en fait le juge peut être orienté maladroitement, de manière discriminante, par ces algorithmes qui du coup remettent en question son indépendance. Le juge, il est maître en fait. Il peut décider, il peut faire un revirement jurisprudentiel. Vous voyez ?
Et donc, il peut être créatif au fond.
Exactement.
Ce que les
c'est
algorithmes
ce qu'on attend de lui.
Ne sont pas.
Voilà, exactement. Et c'est ce qu'on attend d'un juge en fait. Et parce que sans ça, la société n'évoluera pas. Sans ça, la société reviendra en arrière. Donc c'est voilà, ce principe d'indépendance du juge est fondamental. Dans le droit.
Vous êtes dans ce livre, Aurélie Jean, Les algorithmes font-ils la loi ? Vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir, ce qui est rare. La plupart du temps, quand on parle des algorithmes, quand on parle d'intelligence artificielle, on est souvent pessimiste en disant « Oh là là, ça va être horrible ».
Mais je pense que c'est parce qu'en fait, les gens qui en parlent et qui sont pessimistes, catastrophistes ou dramatiques, parfois ne comprennent pas forcément eux-mêmes en fait, ce qui se passe. Moi, je suis optimiste parce que je sais ce qui peut être fait avec ces algorithmes, des choses incroyables, formidables. Et dans tous les domaines. Et je crois beaucoup, et c'est le sujet de mon livre, je crois beaucoup à la mise en place de régulations pour encadrer correctement, justement, de manière pertinente, les développements algorithmiques et les usages pour protéger l'individu tout en encourageant l'innovation. Donc, les régulations qui sont actuellement discutées par l'Europe, l'Union européenne, sont, je pense, la prochaine étape importante. Encore faut-il que ces textes soient bien faits, pertinent, sans vide technologique, parce que j'en parle au début de la présence d'un ou deux vides technologiques, enfin, j'en ai identifié deux dans le RGPD. Le RGPD qui est la réglementation de protection des données à caractère personnel européen qui a influencé le texte californien, on ne le dit pas assez, le texte américain. Et voilà, et moi je suis plutôt très optimiste comme ce qui s'est passé pour le RGPD qui a été une révolution.
Mais ces algorithmes, ils n'ont aucune responsabilité juridique.
Surtout pas.
Non mais il faut le savoir.
Oui, c'est un bon
important.
Point. C'est un bon point parce que souvent, je vois dans les médias où les gens qui disent l'algorithme est sexiste, l'algorithme est raciste, l'algorithme est coupable, je n'ai pas confiance en l'algorithme. Tous ces termes-là anthropomorphiques sont très graves, sont très faux, en fait, sont faux, hein, et déforment la réalité qui est en fait de dire que l'algorithme n'est pas une personnalité juridique, ni morale, ni physique, n'a donc aucune responsabilité, ne peut donc pas être jugé. Et comme dans tous les domaines, quand on me dit « bah oui, mais la question de la responsabilité, qui est responsable ?» Je dis « mais ça, c'est un faux problème. Le problème, il existe, il a toujours existé dans tous les domaines. Quand vous allez faire un scanner à l'hôpital, sur un scanner par exemple cérébral, et qu'on ne voit rien, et que 3 mois après, on se rend compte qu'il y avait une tumeur et qu'on ne l'a pas vue, qui est responsable ? Le médecin, le technicien qui a installé le scanner, le propriétaire du scanner, l'hôpital en tant que personne morale, etc., etc. Donc c'est un problème qui a toujours existé, ce n'est pas un problème nouveau. Et encore une fois, il faut aller chercher donc, des coupables chez tous les gens qui vont penser l'algorithme, qui possèdent l'algorithme, qui vont le développer, qui vont le tester, qui vont le vendre et qui vont l'utiliser. On n'en parle pas assez. Mais même un algorithme qui a été bien dimensionné peut parfois être utilisé à mauvais escient.
Voilà, c'est exactement comme la langue. On en parlait avec Patrick Charaudeau tout à l'heure. La langue est-elle sexiste ? La langue, elle a le même problème que l'algorithme.
Exactement.
Ou plutôt, elle n'a pas le problème de l'algorithme. Elle n'a pas plus de problème que l'algorithme. Mm-hmm. C'est nous qui avons des problèmes. Merci Aurélie Jean.
Merci infiniment.
Les algorithmes font-ils la loi ? Ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. On va parler maintenant de charcuterie. Tiens, la charcuterie est-elle responsable ? C'est Joël Mauvignier qui est mon prochain invité.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Joël Mauvignier.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes charcutier traiteur de père en fils, hein, à Mérignac, et meilleur ouvrier de France, président depuis 2008 de la CNCT, la Confédération Nationale des Charcutiers Traiteurs. Et si je vous ai invité aujourd'hui, c'est qu'a lieu cet après-midi à l'église Saint-Eustache à 18h30, la messe du souvenir des charcutiers. Ce sera la 212e, une tradition très ancienne, donc plus de 2 siècles, et qui déboussole souvent les touristes puisqu'on y prie, on y chante et on y mange de la charcuterie. Un buffet de charcuterie est dressé dans la nef de Saint-Eustache. Alors, quelle est l'origine de cette cérémonie, Joël Mauvignier ? Vous célébrez le souvenir de qui ?
Le souvenir des charcutiers, bien entendu. Ce métier atypique, cuisiner le cochon. C'est ça au départ. Donc, le rassemblement, parce qu'en plus, Saint-Eustache, c'est les Halles, donc c'est le rassemblement de toute la confrérie des charcutiers qui se retrouvaient là annuellement et en même temps aussi pour donner à manger aux plus pauvres, aux plus démunis. Et
c'est toujours buffet, hein.
Voilà, et toujours cette culture que j'essaie de conserver, bien entendu, à ce niveau-là.
Il y a beaucoup de toques blanches et de capes bleues à Saint-Eustache le jour de la messe du souvenir des charcutiers.
Oui. Bien sûr, il y a la confrérie de Saint-Antoine.
Et les capes bleues, c'est la confrérie de Saint-Antoine. Ouais, Saint-Antoine est le patron des charcutiers.
Et le patron des charcutiers. Et puis les blancs, ben, c'est les meilleurs ouvriers de France. C'est les apprentis du CEPROC, particulièrement puisque c'est une école qui a 51 ans et qui est typiquement parisienne. Et on se rassemble à ce niveau-là. Parce qu'en même temps, 30% de plus quand même de charcutiers cette année, en apprentissage. Donc c'est phénoménal.
Ah oui, c'est un métier qui séduit.
C'est un métier qui revient à la mode. Hein.
La corporation des charcutiers s'est constituée en France en 1476. Charcutier, ça vient de chair cuitier, celui qui cuit la chair. Mais c'est un métier qui remonte à l'Antiquité. Pour vous, un charcutier, est-ce que c'est un cuisinier comme les autres ?
Ben oui, c'est d'ailleurs, si je peux citer Guy Savoy, qui dit que le plus grand cuisinier, c'est le charcutier.
Donc, lui-même étant considéré par beaucoup comme le plus grand cuisinier.
Exactement, exactement. Alors, des propos de Guy Savoy dans ce sens-là, ça me touche particulièrement, et je l'ai dit. Mais c'est vrai que nous sommes un métier atypique où nous sommes des charcutiers, on travaille, comme vous le dites, Frédéric, le cochon, mais derrière, nous sommes des cuisiniers, avec les plats cuisinés, nous sommes aussi des pâtissiers. La bouche à la reine, un exemple. Il faut faire la pâte feuilletée, il faut... Voilà. Donc tout ça, c'est la bonne quiche aussi. C'est vraiment le métier avec des facettes complètement différentes.
Une grande partie de la gastronomie française, d'ailleurs, on la doit aux charcutiers, hein, du foie gras au vol au vent, du pâté en croûte à l'œuf en gelée, du boudin blanc du Havre à l'andouillette guéménée. Tout ça, c'est le travail des charcutiers.
Tout ça, c'est le travail des charcutiers. Et la particularité aussi, c'est que hormis les basiques qu'on peut avoir, le fromage de tête, le boudin, etc., mais dans chaque région, il y a aussi des spécialités différentes, des spécificités. Et donc, on arrive en ce moment aux fêtes de fin d'année. Alors, le foie gras, oui, je revendique que le foie gras, le meilleur des foie gras, il est chez le charcutier. Mais après, bon, vous avez des produits d'accroche comme le boudin blanc, des produits qui sont somptueux et pas chers, en même temps, où on peut se faire vraiment plaisir. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de notre ADN.
Sans remonter jusqu'au Moyen-Âge, c'est quand même une profession qui a sacrément évolué au cours des dernières décennies. Hein. Du porc, vous êtes passé aux oiseaux, au gibier, aux plats cuisinés, aux salades, à la pâtisserie salée, puis sucrée, et même aux poissons. J'ai l'impression que c'est plus du tout le même métier que quand vous avez débuté, vous, par exemple.
Mais moi, j'ai débuté, mon père, il faisait que de la charcuterie. Donc après, j'ai été lancé ailleurs dans d'autres entreprises où j'ai découvert le plat cuisiné, parce qu'aujourd'hui, le mot traiteur, il est galvaudé. C'est en réalité, c'est, comme vous le dites, le charcutier, c'était charcutier plat cuisiné sur les enseignes. Et on a commencé, et en même temps, le mot traiteur aussi, l'événementiel, d'aller amener, confectionner des repas chez le consommateur, chez le client, etc. Mais c'est nous. C'est nous, et ça, je le revendique aussi. Et la transformation, bien entendu, de ce beau métier, parce qu'il n'y a pas que le cochon qu'on transforme, mais quand vous me citez la volaille, le cochon, il est fait pour amener de l'onctuosité à la volaille, qui est particulièrement sèche. Bon, voilà. Et puis, après, aussi, les tendances, le poisson, la ménagère qui a envie de manger un petit peu light. Donc, on s'est transformé là-dedans. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment un métier atypique.
Mais chez vous, à Mérignac, en Gironde, Joël Munevigné, est-ce que ce sont les mêmes qui font la charcuterie et les salades, par exemple ?
Alors, chez moi, pour citer l'exemple, on est 14. J'ai des gars spécialisés, si vous voulez, mais au fil du temps, ceux qui ont vraiment le métier de charcutier, on les a orientés vers la cuisine, on les a orientés vers la pâtisserie, de manière que quand il y a, et puis ça fait un turnover aussi dans les laboratoires, mais aujourd'hui, quand on essaie d'embaucher dans nos entreprises, on essaie d'embaucher des gens avec des spécialités, Et en même temps, c'est notre métier qui leur permet de dériver. On embauche un pâtissier, et bien entendu, il est attiré pour confectionner, parce qu'un pâtissier, proprement dit, il ne sait pas faire un pâté croûte. Donc la farce à l'intérieur, mais il faut l'apprendre. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une diversité, et en même temps, c'est ce métier-là qui attire, en deuxième temps particulièrement, même s'il y a 30% de plus aujourd'hui de jeunes qui nous ont rejoints, mais c'est un métier, en deuxième temps, les reconversions, et bien entendu, malheureusement, le phénomène de la restauration, nous avons énormément de cuisiniers qui viennent nous rejoindre. Mais on est quand même un métier, attention, il nous manque encore des bonhommes.
La charcuterie, ben pour moi, enfant, qui adorait la charcuterie, c'était d'abord une gamme de couleurs, toujours les mêmes, et assez sombres au fond. J'ai l'impression que les charcuteries se sont égayées depuis quelques décennies, justement parce qu'il y a eu les salades qui sont arrivées, les légumes. Tout à coup, il y a eu du rouge, du vert, dans un univers qui était un peu monochrome.
Oui, mais justement, Frédéric, c'est le phénomène, c'est qu'on a répondu à la demande du consommateur. Et les salades, en rayon de salade, oui, c'est énorme chez nous. C'est 20-30 salades par jour. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, le consommateur, quand il vient, si c'est le midi pour un snacking, ben, il veut manger une petite salade, il veut peut-être manger une petite quiche. Mais vous avez aussi la ménagère qui rentre chez elle le soir et qui veut le repas complet. Donc, il lui faut le panel général. Et en même temps, avec des prix abordables. Ça aussi, il faut le dire. Il faut pousser les portes de nos boutiques. Il ne faut pas croire que le charcutier, c'est pas parce qu'il a une image un petit peu chère. Non, pas du tout. Poussez la porte, venez voir, et à l'intérieur, vous découvrirez que les prix sont quand même attractifs. Alors, bien entendu, c'est un peu plus cher que la boîte emballée, le prix emballé que vous pouvez rencontrer en grande surface, bien entendu. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a de la qualité et surtout, il y a de la main-d'œuvre. Voilà.
Vous avez deux ennemis, hein, la charcuterie industrielle et les revendeurs de charcuterie qui se font passer pour des charcutiers traiteurs qu'ils ne sont pas. Vous avez le même problème au fond que les boulangers qui se trouvent en concurrence avec des débots de pain.
Exactement, vous l'avez bien ciblé. Moi, les revendeurs de charcuterie industrielle, ça nuit à l'image du charcutier. Comment le consommateur peut découvrir, savoir si c'est vraiment son charcutier qui fabrique son jambon, qui fabrique son boudin, etc. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, et je le dis depuis des années, il faut que le consommateur il dise au charcutier qu'il a en face, ou le soi-disant charcutier, vous pouvez me montrer votre laboratoire, parce que c'est pas, chez nous ce n'est pas des cuisines, c'est des laboratoires. Et là, moi la porte est ouverte, et je peux faire visiter à n'importe qui, de manière qu'on voit, qu'on sente, et qu'on entende aussi le bruit. Voilà, donc, et les charcuteries, un petit peu, Frédéric, vous disiez, un petit peu terne, c'est chez nous, mais les fluos, c'est un petit peu industriel.
Dernière question, Joël Mauvignier, réponse très rapide. Qu'est-ce qui caractérise la charcuterie française de celle des autres pays ? Parce qu'on connaît tous la charcuterie espagnole, la charcuterie italienne, mais qu'est-ce qui est spécial la charcuterie française ?
Mais la vraie charcuterie, de toute façon, c'est français, d'accord ? Pourquoi ? Parce que la transformation, la cuisiner charcutier, c'est vraiment typique. Vous citez l'Espagne ou vous citez l'Italie, c'est beaucoup du sec, à cause de la chaleur, etc. Vraiment, le moteur de la charcuterie transformée, c'est chez nous. Par contre, elle s'exporte bien, parce qu'on en mange dans le monde entier.
Merci Joël Mauvignier.
Merci Frédéric.
Je rappelle que donc à 18h30, dans l'église Saint-Eustache, cet après-midi, à Paris, aura lieu la 212e messe du souvenir des charcutiers. C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve la semaine prochaine dans quelques instants. Vous avez rendez-vous avec Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, qui est votre invitée ?
Bonjour Frédéric, notre invité du grand rendez-vous sera le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Et pour l'interroger, je serai entouré de Nicolas Barré et Mathieu Boccoté.
Bonne émission Sonia.
Europe 1.